France Inter.
David Ducreux, Juliette Drouard, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
David Ducreux, pourquoi écrivez-vous ?
Pour que la vie ressemble à ce que j'ai dans la tête.
Juliette Drouard, même question, pourquoi écrivez-vous ?
Ça dépend, mais là en l'occurrence c'est un cri d'oiseau. Donc ce serait pourquoi un cri d'oiseau ?
On va vous poser la question tout à l'heure. David Ducreux, votre mot préféré de la langue française ?
Lycanthrope.
Et vous, Juliette Drouard ?
Oh waouh, déjà ! Et whiskas.
Whiskas. Et le mot que vous aimez le moins tous les deux ?
Désunion.
Furoncle.
Moi non plus, j'aime pas.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassel.
Bienvenue dans Etc. Cette semaine, trois premiers romans remarqués et remarquables. Trois livres qui abordent chacun à leur manière les violences faites aux enfants. La loi du moins fort, c'est le titre du livre de David Ducreux-Sincet. Un premier roman écrit à la première personne qui vient de paraître chez Gallimard. Le narrateur est un petit garçon maltraité par sa mère et tyrannisé par son meilleur ami, dont il deviendra à l'âge adulte l'homme de main. On suit l'itinéraire de cet enfant qui cherche jusqu'au bout à échapper à son destin. Le style est fluide, parfois ironique, voire cynique. On rit par moments, mais le plus souvent, on est pris à la gorge. De violence, il est aussi question dans le premier roman de Juliette Drouard. Il s'appelle Cui-Cui et il est publié aux éditions du Seuil. L'histoire se passe en 2027. Les mineurs ont obtenu le droit de vote. Parmi eux, le personnage principal du livre, un enfant dissocié par l'inceste qu'il a vécu. La dissociation est partout, parfaitement retranscrite dans la langue. L'écriture se trouve morcelée, découpée, extrêmement imagée, voire poétique. On en sort troublé et ça tombe bien. J'ai plein de questions à poser à Juliette Drouard et nos libraires francophones aussi. Enfin, nous irons au Québec pour un duplex avec une autrice qui travaille dans l'éducation depuis des années. Son livre « L'élu », publié chez Philippe Rey, est inspiré de son histoire personnelle, celle d'une mère qui se bat contre la violence qui pèse sur les enfants autistes et leurs familles, notamment la violence du système de santé. Alors comment mieux protéger nos enfants ? Que peut la littérature ? Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Rebonjour à tous les deux, Juliette Drouard et David Ducreux.
Bonjour.
Alors, Juliette Drouard, vous racontez la violence d'un père dans votre livre, David Ducreux, la violence d'une mère. David Ducreux, je commence par vous. J'aimerais que vous nous lisiez le tout début de votre roman, cette première page, cette première scène qui donne le ton du livre.
Je me suis toujours demandé si les pattes de poulet que ma mère réclamait au boucher devaient seulement, comme elle le prétendait, amuser notre chat ou si, en réalité, elle me les destinait, estimant satisfaire ainsi le goût qu'elle m'accusait de cultiver pour le morbide. Je me souviens qu'un jour, alors que je la regardais déballer les provisions, elle en jeta une paire par la fenêtre de la cuisine, en même temps qu'elle me jetait à moi « Tiens, va voir là-bas si j'y suis ». Croyant sans doute que ses paroles s'adressaient à lui, le chat, abandonnant ses ronronnements inutiles, s'empressa lui aussi de passer par la fenêtre pour s'emparer du précieux hocher. Mais je savais bien, moi, à qui ma mère avait parlé. J'avais reconnu au ton de sa voix, à sa sécheresse, l'invitation qui m'était faite. Mais peu importait, le chat et moi avions chacun notre patte de poulet et de quoi nous occuper pendant un moment.
Alors David Ducreux, dès cette première page, on sent la violence de la mère envers son fils. Comment la qualifier, cette violence ? C'est quoi ? C'est du mépris, de la frustration, de la haine ?
Je ne sais pas si elle est vraiment, si la violence elle est tournée vers l'enfant ou vers les autres d'une manière générale. C'est ce qu'on va un petit peu découvrir dans le roman, considérant que tout ce qui lui est extérieur et étranger lui est potentiellement nuisible, quoi. Voilà. Et donc cette mère se bat un peu contre tout le monde et peut-être aussi contre elle-même.
Mais elle est particulièrement violente avec lui.
Oui, mais c'est aussi l'être qui est le plus proche d'elle. Alors, je sais pas si c'est une bonne raison, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, quoi.
Alors, je l'ai dit, c'est un premier roman très fort. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire un livre aussi dérangeant ? Parce qu'il faut le dire, c'est assez dérangeant de lire ça.
Le fait que ce soit dérangeant, c'était pas du tout une volonté. La volonté, c'était vraiment d'écrire sans me limiter à quoi que ce soit, vraiment avec l'idée de pas me censurer, et d'aller vraiment au bout des scènes et d'exprimer tout ce qu'il y avait à exprimer. Alors parfois ça allait même parfois un peu plus loin, donc j'ai aussi un peu contenu, et c'était vraiment avec l'idée d'explorer cette violence qui je pense qu'on a en nous. Alors soit on l'exprime autrement, ou on l'exprime parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la violence. violence, effectivement, tournée vers une personne ou autre chose. Et parfois, et dans la plupart des cas, et fort heureusement, cette violence, elle est maîtrisée, elle sort autrement, et parfois pour donner aussi des choses positives, quoi.
Dont la littérature.
Exactement.
Juliette Drouard, vous décrivez vous aussi les violences intrafamiliales. Vous aviez déjà écrit sur le sujet, notamment sur la question de l'inceste. Pourquoi avoir voulu en faire un roman cette fois-ci ?
Parce que j'aime écrire et aussi parce que c'est un véhicule sûrement qui passe au corps. Donc. Et également, je dirais, si ça devait servir à un but autre que celui-ci, pour passer un message, c'est vrai que voilà, la littérature, ça prend au corps.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous croyez que la littérature peut changer les choses ?
Bien sûr, absolument. Ça prend au corps, le corps comprend
sans avoir besoin d'expliquer forcément, en fait.
Voilà, après, je pense que c'est des allers-retours. C'est pour ça que j'aime toujours, quelque part, fictionner ma théorie ou théoriser ma fiction. Et d'ailleurs, il y a le pendant de ce roman qui va sortir en septembre, qui est un essai, pour le coup, qui s'appelle Trauma.
Mais ce qui est vrai, c'est que dans votre roman, il y a beaucoup de notes de bas de page, de notes explicatives. Donc c'est une manière, comme vous venez de le dire, de théoriser la fiction.
Oui, et j'aimais bien, par ailleurs, cette forme d'hybridité, d'hybridation, j'en sais rien, du genre, où on a des fois des notes qui pourraient appartenir à un essai, et quelque part qui sont aussi tout à fait ancrées dans le champ du réel, et qui sont sourcées, et qui se mêlent quand même dans une fiction, doublement presque, parce que c'est une dystopie aussi, donc... Mais c'est une dystopie qui est à portée de main, qui n'est pas loin,
oui. On joue. Et dont les germes sont présentes dès aujourd'hui. C'est intéressant parce que vous avez deux démarches différentes. Juliette Drouard, David Ducreux, vous restez avec nous. Quand on revient, on s'intéresse aux narrateurs de vos livres, enfants, adolescents en souffrance, et comment on réussit à rendre cette douleur en littérature. Mais d'abord, on écoute Mickey avec Cartoon Sex.
Je vois ma vie comme un jeu sur Nintendo. On s'amuse bien, mais je suis souvent qui bloque. Je veux qu'on m'éjecte sans cliquer sur save et qu'on remplace que j'ai pris la poussière. Je kiffe pas les filles qui kiffent pas les filles. Chérie, c'est pas parce qu'elle est belle que tu es moins jolie. On dit souvent que j'ai une tête de chat. C'est peut-être pour ça que je suis allergique à moi. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un truc de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong, dis-donc. Oui, c'est chi, 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 chi. Je vois ma vie comme les pages d'une bande dessinée. J'aimerais effacer certaines cases. À me faire draguer par des alligators. Un peu bouffi, un peu mal dans leur corps. Parfois je me sens comme un garçon. Ça me fait du bien, j'ai l'impression. Et si je te parle mal, si je me parle mal. Bah les pattes, j'en fais pas un drame. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un truc de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong, ding-dong. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un pote de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong, ding-dong. Oui, c'est qui, 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 qui.
Viens, surtout enlève tes chaussures, hein. Moi je j'aime pas trop la poussière. Ouais, y'a pas de problème, par contre y'a pas mal de scratch, ça va, t'aimes pas trop, enfin le bruit ça dérange pas. Écoute, non vas-y essaye. Ok, c'est parfait, putain t'as des gros pieds. Ouais je sais, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais j'avoue, c'est la vie. Bon bah tu rentres. Ok. Super.
Vous écoutez Etc. et nous sommes toujours en compagnie de Juliette Drouard et David Ducreux, les auteurs de deux premiers romans très puissants. David Ducreux, le titre de votre livre, c'est « La loi du moins fort ». Comment l'avez-vous choisi ce titre et que signifie-t-il pour vous ?
Le choix, il n'a pas été très forcément évident. Le titre est arrivé assez tard. En revanche, à partir du moment où on l'avait trouvé, mon éditeur et moi, on a su que c'était le bon titre. C'était un titre qui paraissait tellement évident qu'on On craignait qu'il n'ait déjà été pris et après vérification, c'était tout à fait disponible, donc c'était formidable. L'idée qui était un petit peu à l'origine du livre, c'était, j'avais vraiment le tandem entre le narrateur et Romain Poisson.
C'est son meilleur
ami. Le maître et le serviteur, enfin on peut trouver beaucoup de manières de les présenter, mais en tout cas dans une opposition, en tout cas, avec ce jeu justement de manipulation. Et pour moi, celui qui en apparence est manipulé, donc le moins fort,
peut-être le plus
n'en pense pas forcément moins. Il n'y a aucune raison qu'il soit condamné d'avance, en réalité.
Pour moi, la loi du moins fort, c'était presque un instinct de survie.
Il est aussi question de ça, en fait. Alors, c'est une violence qui est... Il y a la violence de la mère, mais c'est une violence diffuse, en fait. C'est le monde qui est violent. Donc, la mère, elle symbolise ou elle agrège toutes les, un certain nombre de violences qui sont présentes dans le monde.
Puisque tout à l'heure, je disais violence de la mère pour vous, violence du père pour Juliette Drouard, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Juliette Drouard, vous aussi, en fait, il y a la personne qui est immédiatement violente, celle qu'on repère comme étant la personne violente tout de suite. Mais en fait, dans un couple, et même de manière systémique, la violence est diffuse.
Enfin, je voulais parler aussi de ces emboîtements relationnels et de cette violence qui est moins évidente. Et en l'occurrence, cette dyade, c'est donc le couple parental où il y a une violence explosive, agressive, dans le sens d'agression, y compris sexuelle. Et une forme
ça, c'est
de
du côté du père.
Du côté du père et du côté de la mère. Voilà, un déni extrêmement puissant qui, du coup, n'oppose aucune limite et finalement permet ces actes d'agression. Et donc, qui est peut-être moins souvent repéré et repérable parce que elle s'inscrit plus en creux et des formes de style où là dans le roman de David peut-être que la mère a un style qui est souvent plus apparenté au style des hommes en tout cas voilà usuellement et donc c'est super de dire que c'est pas toujours le cas et aussi du coup, plus dans Cui-Cui, de pointer un style qui est souvent plus apparenté à celui des femmes et des mères, qui est de rien dire, de rien voir et de ne rien faire.
Et vous, David, dans votre livre, c'est vrai qu'il y a la violence immédiate de la mère, mais le père n'est pas en reste.
Évidemment, pour que la violence de la mère s'exerce totalement, il fallait absolument que le père soit un peu plus effacé, qu'il fuit. C'est un couple qui va très vite divorcer. Le père va effectivement fuir cette situation-là en laissant ses enfants, puisqu'il y a un narrateur, mais ce narrateur-là va avoir deux sœurs. Et les enfants sont livrés à la mère. Et je pense que c'est aussi une question de survie pour le père. Alors, est-ce que c'est vraiment un choix ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qui se sauve lui-même avant éventuellement de pouvoir sauver ses enfants. Mais
donc c'est aussi une violence pour les enfants.
C'est vécu comme un abandon, et effectivement, on livre les enfants en pâture à la mère. Quoi, voilà.
David Ducreux, vous avez été lu par l'une de nos libraires, Catherine Kohler, de la librairie Bostrich à Bienne, en Suisse. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors vous avez été séduite par ce premier roman.
Oui, c'est une histoire poignante, celle d'un narrateur que l'on suit de l'enfance à l'âge adulte, pris dans une double emprise, celle de sa mère, toxique, violente, cruelle, et celle de Romain Poisson, ce voisin du même âge, à la fois dominant et manipulateur, qui devient paradoxalement sa planche de salut. Et dans cette spirale de soumission, dès les premières pages, une sourde détermination se dessine chez le personnage, mais c'est le parcours vers son destin qui nous tient en haleine, porté par l'empathie qu'on éprouve à son égard et l'espoir de le voir s'émanciper de ses joues. Et j'ai trouvé qu'une des forces du roman est l'immersion dans une conscience d'enfant qui nous fait ressentir viscéralement cette période de grande vulnérabilité où toute forme de défense politique ou sociale est impossible. Et face à cette impuissance, les deux enfants créent leur propre univers parallèle, un monde régi par leurs lois et leurs rituels. Ils se retrouvent dès qu'ils peuvent, se réfugient dans une cabane dans les bois, se livrent à des activités secrètes, enterrent des petits animaux, puis des plus grands, et leur plan d'avenir se dessine comme autant de promesses de domination future. Nous devenons ainsi témoins de la construction méthodique d'une psyché marquée par la violence, où chaque geste d'enfant porte en germe les drames à venir. D'où ma question, David Ducreux, votre roman montre comment les rapports de force de l'enfance façonnent durablement les motivations du personnage. Comment avez-vous travaillé cette progression psychologique de la psychologie d'un enfant traumatisé à celle d'un adulte déterminé ?
Alors, vous l'avez un petit peu dit, c'est-à-dire qu'il y avait dans la narration, en tout cas, il y avait effectivement une progression, c'est-à-dire que mon narrateur, il est, ça apparaît dès le début du texte, effectivement, une sorte de goût pour la morbidité. C'est plus, moi je le sens plus comme une espèce de capacité à être en empathie avec les êtres qui souffrent, mais ce qui touche certainement beaucoup les gens qui souffrent eux-mêmes, et notamment pour les petits animaux. Alors ça peut être des insectes, mais ça va très vite devenir effectivement des animaux un petit peu plus gros, des oisillons, des chats, etc., jusqu'à devenir des hommes. Mais donc cette progression, elle est déjà là, dans la taille des
victimes.
Des victimes, effectivement. Après, alors c'est un adulte qui raconte, le narrateur est adulte au moment où il raconte l'histoire, donc et ça se situe presque une quarantaine d'années après le début de l'histoire, si on peut dire. Mais en réalité, quand il se met à raconter et à évoquer les souvenirs de cette rencontre avec Romain Poisson, inévitablement, il est replongé dans sa propre enfance et dans cette psyché, justement. Et je crois que cette espèce de permanence de l'enfance et de l'esprit de l'enfance et une manière de voir aussi les choses qui est toujours là, et notamment quand on raconte la violence qui a été subie à ce moment-là, quoi.
Alors, notre libraire vient d'en parler, il y a une double violence qui s'exerce sur le narrateur, celle de la mère et celle de son ami, Romain Poisson. Qui est-il, ce Romain Poisson, et qu'est-ce qu'elle raconte en creux, cette amitié ?
Mon narrateur, en fait, a tout à fait conscience de la violence de sa mère. Il se sent absolument impuissant face à elle. Et à la fois, c'est un manque de force, mais c'est aussi un manque de courage. Donc, il va se mettre un petit peu en quête de celui qui va pouvoir le libérer de sa mère. Quitte, éventuellement, et c'est ce qui va arriver, à passer sous l'emprise de cette autre personne et qu'on va trouver en Romain Poisson, qui est le petit voisin, qui a le même âge que lui. Et très tôt, cette conscience que ce Romain Poisson, qui a un petit peu les mêmes goûts que mon narrateur pour le morbide et pour la mort, plus une ambition politique très précoce, mon narrateur va forcément voir que ce petit voisin pourrait vraiment le libérer, mais à condition de rentrer sous son emprise. Donc voilà, on échappe à une emprise pour en rejoindre une autre.
C'est intéressant ce que vous dites de la violence qui appelle la violence. Julia Drouard, qu'en pensez-vous ? On rejoue la violence première ?
Qu'on la rejoue, ça ne veut pas dire que ça nous enlève la responsabilité de la rejouer. C'est-à-dire qu'il faut bien être ferme sur le fait que chacun et chacune a la possibilité de se reprendre par rapport à ça. Et de se soigner, en fait, en réalité. Mais effectivement, c'est dire que quand on a subi des traumatismes, des liens, soit des traumatismes à l'âge adulte, ou, et c'est très souvent le cas, des liens dysfonctionnels, voire violents dans l'enfance, on va être soi-même traumatisé, et que les mécanismes du traumatisme vont effectivement reproduire, que ce soit parce qu'on est... on devient extrêmement méfiant, et c'est ce dont tu parlais aussi, David, on perçoit l'autre toujours comme une menace, parce qu'en fait, quand on est traumatisé, le corps se sent toujours en danger, rien n'est classé. Donc quand on se sent toujours en danger, l'autre est une menace. Donc évidemment que ça ne permet pas des relations détendues, calmes et pacifiques.
Ou alors on n'en est pas conscient, et effectivement c'est là où on peut rejouer comme le narrateur de David Ducreux qui est enfant en fait, et qui connaît la violence de sa mère, mais qui ne se rend pas compte à ce moment-là qu'un camarade peut exercer sur lui une forme d'emprise.
Tout à fait. Quand je parlais de responsabilité, évidemment, c'est celle d'abord de l'adulte, de se ressaisir, ou on dit d'être en capacité.
Et David Ducreux, qu'en pensez-vous ?
C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a des chiffres dessus. C'est-à-dire que la violence n'engendre pas forcément la violence. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été maltraité de quelconque manière ne devient pas systématiquement violent. Et c'est une espèce d'idée reçue qu'on a, et notamment parce qu'au cours de tous les grands procès, quand on commence à étudier la vie de certains criminels et à creuser un petit peu leur enfant, alors ça va être présenté comme circonstance atténuante d'une certaine manière, mais en réalité la plupart des enfants qui ont subi des violences sont tout à fait résilients et ne rentrent pas dans cette logique là et moi ce qui m'intéressait en fait c'était au contraire d'aller plutôt du côté du cliché, et avec l'idée que parfois pour répondre à la violence il n'y a que la violence, c'est-à-dire que ce sont deux deux logiques qui s'affrontent, et que après c'est aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, une question de survie. Et parfois, effectivement, il faut vraiment se battre. Et c'est un peu le parcours de mon narrateur aussi, qui n'a pas ce courage-là de la violence. Et donc, il va presque la déléguer à ce Romain Poisson qui va pouvoir l'exercer pour lui, mais qui va malgré tout rentrer dedans. Et Juliette, tu parlais de cet environnement, c'est-à-dire qu'effectivement un enfant dont la mère ou le père est violent ou un proche est violent dans un cercle restreint va de toute façon voir tous les adultes comme des sources de danger et comme des gens potentiellement violents et en plus il peut aussi le voir ça dans ses camarades puisque les enfants sont
par
nature mais en tout cas très souvent très violents entre eux alors sans en avoir forcément conscience mais des enfants entre eux ça peut être très très violent quoi.
David Ducreux, il y a beaucoup d'humour dans votre oui. roman. Notre discussion ne donne pas l'impression comme ça, mais c'est le cas. Malgré donc, toute la violence et la cruauté que vous décrivez, moi j'ai beaucoup ri. Je vous cite. Alors, nous avions enterré un chat dans la forêt avec une belle croix en bois et des galets, et même une couronne de fleurs en céramique avec un ruban sur lequel il était inscrit à ma belle-sœur que nous avions trouvée au cimetière. Voilà, bon, c'est une des phrases qui m'a fait rire, la pancarte à ma belle-sœur sur...
Ils ont pris ce qu'ils ont trouvé. Quoi. Voilà,
je trouvais ça très drôle. L'humour était absolument nécessaire dans ce roman.
En fait, il y a beaucoup d'histoires de dualité dans ce roman. Je l'ai un peu construit comme ça, avec beaucoup de scènes qui se répètent, des motifs que je voulais absolument récurrents. Et puis une dualité, parce que je pense que les choses ne sont ni noires ni blanches, et qu'en réalité, la vérité est beaucoup plus compliquée que ça, et en tout cas moins évidente.
Est-ce qu'il y avait une volonté de ne pas plomber le lecteur ?
Oui aussi, puis alors en réalité il y a une petite part autobiographique en tout cas dans certains éléments, mais j'avais pas du tout envie d'en faire un récit et moi surtout j'avais envie de prendre du plaisir à écrire cette histoire, j'avais envie de m'amuser avec, et puis surtout moi je suis en vie, enfin hein, je veux dire tout va bien, je suis hyper heureux, enfin oui. Voilà tout donc j'ai pas du tout, alors c'est de l'humour un peu noir aussi parfois, mais c'est vraiment le genre d'humour qui me plaît déjà, et puis parce que c'est le tragique de la vie, quoi, voilà, donc on va mourir, hein, donc, mais bon, en attendant, rigolons, quoi, voilà.
Vous, Juliette Drouard, votre livre s'appelle Cucui, et c'est le surnom que le narrateur se donne à lui-même, un surnom léger qui contraste avec les thèmes graves du livre.
Je sais pas si c'est léger, pour moi il y a une forme d'ambivalence, en tout cas... qui au début du roman, donc on ne connaît pas, on ne connaît jamais d'ailleurs le prénom, et c'était important pour moi que ce soit un enfant qui soit très peu situé en réalité.
C'est vrai qu'il n'est pas situé ni du point de vue du genre, ni effectivement il n'a pas de prénom non plus.
Et au début, la première occurrence de Cui-Cui, c'est un peu Cui-Cui les petits oiseaux.
Oui,
et,
c'est ça.
Et Yael se le dit à lui-même.
C'est pas trop
en
pourquoi.
Ayant conscience qu'il est un peu zinzin. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui est un peu perché. Donc c'est à la fois, effectivement, Cui-Cui, et puis plus tard, Yael se nomme Cui-Cui. Mais il y a beaucoup de choses contenues là-dedans qui sont à la fois, effectivement, quelque chose de l'enfance, quelque chose de la tendresse, quelque chose de la zinzinerie, quelque chose d'aussi inquiétant. Donc un peu toutes ces... Je pense tout ça.
Cette légèreté, enfin moi je l'avais perçue comme une forme de légèreté, elle a finalement des accents mélancoliques.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a du comique. Enfin, ça c'est aussi, je trouvais que c'était très important, et par rapport à ce que tu disais, David, c'est vrai que pour moi, c'est l'humour de la narratrice, lui permet de supporter tout un tas de choses, et c'est ce qui permet aussi à la lectrice, du coup, de supporter, et plus que supporter, c'est transformer les choses, s'en amuser. Oui, il y a vraiment ce côté,
je l'espère, drôle. C'est peut-être pour ça que vous en avez fait un roman. C'était effectivement peut-être pour transformer.
Aussi, forcément.
David Ducreux, Juliette Drouard, dans quelques instants, on parlera avec vous de ce que c'est que d'écrire un premier roman, des difficultés que vous avez rencontrées ou pas. Et puis j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre aussi, Juliette Drouard. Mais tout de suite, on écoute Mylène Farmer, Maman a tort.
M'amuse.
Bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours avec nos deux primo-romanciers, Juliette Drouard et David Ducreux. Et avant d'entrer dans vos ateliers d'écriture, Juliette Drouard, j'aimerais parler avec vous de la notion de résilience. Parce que vous aviez envie de réagir à ce qu'avait dit David Ducreux tout à l'heure et je crois que c'est une notion qui vous dérange.
Ce que je voulais juste dire, c'est que pour moi, quand on a vécu des violences, pour moi, en tant que moi-même, d'expérience personnelle, mais aussi en tant que thérapeute, ça laisse toujours des traces. Ça ne veut pas dire qu'on va être nécessairement violent de la même manière, mais à minima, pour moi, il y aura des dysfonctionnements relationnels. Et que oui, ça demande de se replacer, d'en prendre conscience et d'y travailler.
Pour et comment éviter, on en prend conscience ?
Pour moi, déjà, c'est de l'information. En fait, déjà, il y a quelque chose qui n'est pas assez informé socialement, que ce soit dans le scolaire, dans la...
Vous trouvez qu'on ne s'occupe pas assez de la santé mentale ?
Complètement, on ne s'occupe pas assez de la santé mentale, qui est une santé physique, en réalité. Donc déjà, cette espèce d'écart, en faisant semblant qu'il y a une santé mentale qui serait un peu perchée quelque part, et une santé physique qui aurait un poids corporel presque plus important, ou en tout cas qui prend une sorte de primauté, c'est pas vrai. Les mécanismes traumatiques, ils sont physiques. Pour moi, c'est une urgence, la question de la santé mentale, parce qu'elle est justement liée et au cœur des violences, y compris systémiques.
David Ducreux, vous étiez attaché de presse chez Gallimard, donc on se connaît bien. Et si vous êtes publié aujourd'hui dans la même maison, c'est qu'ils ont jugé que votre livre le méritait, parce qu'ils font jamais ça, il faut le dire. En tout cas, j'aimerais savoir si vous aviez déjà envie d'écrire avant, ou est-ce que c'est la fréquentation des auteurs et votre métier d'attaché de presse, donc le fait de lire beaucoup, qui vous y a poussé ?
C'est, en fait, je pense que tout est un peu mêlé, et je me suis rendu compte, ça fait un an et demi que je suis parti, que j'ai quitté les éditions Gallimard et Paris, pour aller vivre ailleurs, et surtout, il me semblait que je pouvais pas être à la fois du côté de l'éditeur et du côté de l'auteur, non pas qu'ils soient opposés, mais ils sont compagnons de route, mais je pouvais pas faire les deux, et voilà, il fallait faire un choix, et surtout, j'avais envie que l'écriture soit au centre de ma vie et que ce soit mon activité principale. Donc j'ai fait ce choix-là. J'ai pris conscience en début d'année, on m'a proposé d'animer des ateliers d'écriture. Je me sentais pas forcément légitime à le faire puisque c'était mon premier roman et mais je l'ai fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Au fur et à mesure que je faisais mes séances avec tous les participants, j'ai pris conscience que finalement j'avais travaillé en édition juste parce que j'avais envie de comprendre comment on écrivait et que c'était en fait la raison pour laquelle j'avais travaillé plus de 20 ans dans l'édition. C'était juste pour comprendre comment ça marchait. Voilà. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps quand même.
Bah, vous avez une bonne préparation et ça a porté ses fruits, donc bravo. Vous, Juliette Drouard, c'était quoi la genèse de votre roman ?
Suite à un article théorique dans Mediapart qui s'appelle « Pour le droit de vote des mineurs » qui a été publié par la suite dans un ouvrage qui s'appelle « Politiser l'enfance », qui est un ouvrage collectif. Une amie et également mon éditrice, alors pas de ce roman-là, Élise Thiébaud, m'avait demandé, parce qu'elle sait que j'aime bien ça et que j'avais déjà fait ça, une nouvelle pour sa collection Nouvelle Lune qui correspondrait, qui serait un peu un pendant, ou en tout cas voilà, qui s'inspirerait de cet article « Pour le droit de vote des mineurs » qui, par le fil du droit de vote, revient sur la question de la domination adulte-enfant. Et donc, finalement, ce qui est le premier chapitre, à peu près, du livre, était cette nouvelle qui a été publiée dans Nouvelle Lune.
Est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont inspiré, l'un et l'autre ? David Ducreux, on vous a déjà beaucoup parlé de Vipère au Poing d'Hervé Bazin, mais j'imagine qu'il y a d'autres sources d'inspiration.
Non, et puis d'ailleurs, Vipère au Poing, enfin, si, je l'ai lu, mais très très tardivement. En fait, il y a plusieurs sources d'inspiration, à la fois des livres qui m'ont évidemment marqué, qui, de manière tout à fait banale, mais l'idée de ce livre-là, c'était aussi d'écrire une anti-Promesse de l'Aube, en fait, de Romain Gary, ou en tout cas à l'opposé, alors avec une mère tout aussi écrasante, si on peut dire, mais qui n'a pas la bienveillance de la mère de Romain Gary, qui est plutôt effectivement à l'opposé, parce que évidemment la question qui se pose, et on l'a un petit peu survolé tout à l'heure aussi, c'est justement les traces que ça laisse, et comment effectivement on survit à ça, ou comment on vit malgré ça. Voilà, donc ça c'était une vraie question qui m'intéressait. Après, c'est le complexe de Portnoy de Philippe Roth, dans l'idée d'aller vraiment de tout lâcher, d'absolument rien retenir, en tout cas, de ne pas se censurer. Portnoy, le dispositif, c'est le narrateur parle à son psy et donc
ah oui, évidemment,
est invité à tout déballer, si on peut dire. Et donc c'était vraiment, en tout cas, ça c'était avec l'idée, c'était d'écrire comme ça, sans se limiter. Puis après, bon, évidemment, il y a plein d'autres, mais et beaucoup de romans d'apprentissage. Pour moi, un des très très grands romans d'apprentissage, c'est Moon Palace de Paul Auster, voilà, ou Le chercheur d'or de Luc Lesio. Enfin, c'est pour moi des très très grands livres.
Alors, c'est intéressant parce que vous avez deux manières différentes de décrire la violence. Avec vous, David Ducreux, ça passe par une forme de douceur, un classicisme qui renforce la brutalité par effet de contraste. Et vous, Juliette Drouard, vous foncez dans le tas, on entre dans la tête de votre ado et on vit de l'intérieur les conséquences du traumatisme. Est-ce que c'est ce que vous souhaitiez ?
Ben, j'imagine.
Je veux dire oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être aussi par rapport à la question que vous posiez précédemment, du coup, j'étais en train de me dire dans ma tête, c'était quoi, qu'elles inspirent ou qu'elles. Et je pensais à d'autres choses, mais par rapport à là, ce que vous disiez, au fait que pour écrire, je pense que j'ai plusieurs styles d'écriture qui correspondent peut-être à différentes parties de moi. Et là, j'ai écrit d'une certaine manière que je n'avais pas faite jusqu'à présent. Et c'est en lisant un bout de... Je ne sais pas si c'était une conférence ou quoi, mais qu'avait donné Ursula Le Guin, qui est une autrice donc, de science-fiction exceptionnelle, et qui disait, en fait, des fois c'est incohérent dans mes mondes, mais enfin parfois parce qu'elle est quand même très cohérente, parce que je suis mes personnages et je les laisse m'emmener là où ils vont. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est rigolo, moi qui d'habitude prévois un petit peu quand même la construction du récit, parce que je me dis, si je le fais, ça va pas coller. Là, je me suis dit, bon, bah allons-y, suivons cette voie-là. Il y a cette ambiguïté, et c'est ce que tu disais aussi, David, dans le sens de, à la fois adulte, enfant, voilà. Là, il y a cette ambiguïté de, où, en fait, c'est mentionné au début que c'est un adulte qui parle, en tout cas, l'adulte est là, et qui se remémore l'enfance. Mais ensuite, c'est vrai qu'on suit cette partie enfant. Et donc, pour moi, je le décrirais vraiment comme, en tant qu'adulte, je garde des parties de moi qui sont enfants et je les suivis. Ce qui, pour moi, correspond aussi à des formes de mécanismes traumatiques. On peut le voir sous cette forme-là. Après, on peut le nommer autrement.
Oui, je parlais de dissociation tout à l'heure.
Tout
en fait, c'est ce qu'on sent. C'est qu'on sent que
exactement.
Tout est fragmenté. Que... En fait, on sent la dissociation dans l'écriture. Et c'est vrai
exactement.
Qu'il y a de l'ambiguïté du narrateur. Est-ce que c'est un adulte, un ado, un enfant, le genre. Tout est complètement mélangé, mais presque comme, comme toute conscience, en fait. Et c'est ce que vous avez réussi à reproduire. Juliette Drouet, vous avez été lue par une de nos libraires, Aurélie Vergieux, de la librairie Molière à Charleroi, en Belgique. Et elle aussi, elle a relevé ce qui fait la particularité de votre livre, à savoir la force de la langue et du style. Aurélie Vergieux, bonjour.
Bonjour, bonjour Lilia, bonjour à tous.
Parlez-nous donc, Aurélie, du style de Juliette Drouet.
Alors, à la lecture de Cui-Cui, moi j'ai eu l'impression de lire le journal intime d'un jeune ado qui s'exprime dans une langue inventive de cours de récré, parce que dès les premières phrases, j'ai été accueillie par des yeutés, kiff, tronchistéro, putain de cours. Le lecteur sera peut-être dérouté au début par l'usage des pronoms, parce que le héros ne s'attarde pas sur le fait qu'il parle de lui-même en « il », mais que les autres l'appellent « elle ». Et les autres, d'ailleurs, ce sont des « yel », des « c'est-le », des « toust ». Dans cette écriture inclusive qui ne se soucie pas de mettre les gens dans des cases. En tout cas, le ton est donné. On est d'emblée immergé dans son quotidien, sa classe, ses cours, ses copines, ses profs. Tous sont pris dans le tourbillon un peu flou de ses pensées qui s'expriment dans des phrases courtes et haletantes. Et j'ai pensé que c'était peut-être ça le titre aussi, Cui-Cui. Le bruit et le rythme du hamster qui court dans la roue de sa cage comme un flot de pensées qui ne s'arrête jamais. On y sent de la tension, de la colère, de la rage d'un ado qui a envie de hurler son désarroi, de vivre dans ce monde où les adultes sont tous névrosés et malheureux. Les profs sont cons, ils sont éteints, ils sont impuissants. Les parents sont violents ou bien ils sont complices. Le monde que proposent les adultes est fade et absurde. Et j'ai envie de le prendre par la main, cet ado, d'atténuer sa souffrance parce qu'on sent qu'il est à la lisière. Tenez-vous prêt, lecteur, à cette immersion dans les pensées d'un enfant maltraité. C'est puissant, c'est franc, ça fait mal, mais c'est aussi salvateur. Lisez ce livre parce qu'il célèbre l'éclosion de la parole, intime et politique, et que la parole est une arme puissante si elle est entendue.
Attendez, avant que vous posiez votre question, Aurélie, j'aimerais avoir quand même une réaction de Juliette Drouet, parce que c'est très beau ce que vous venez de dire.
Ouais, ça m'émeut, je trouve ça très émouvant. Et je vous remercie.
Alors Juliette, Aurélie, je vous laisse poser votre question.
Alors Juliette, vous dites dans votre roman que si les ados grandissent sans droit, plus tard, ils ne se battront pas pour la liberté des autres. Et ça fait, je vous cite, une société de merde avec des fachos. Il est donc question du droit de vote des mineurs. Et j'aimerais que vous développiez cette idée.
Alors cette phrase, déjà, je pense que je l'ai insérée, mais je ne crois pas qu'elle soit de moi. Je pense que je l'ai mis en tant qu'insert d'un manifeste qui a été écrit par des jeunes adultes.
Mais vous l'approuvez, cette phrase?
Ouais, est-ce que vous voulez la rappeler, parce que...
C'est de dire que si les ados grandissent sans droit, plus tard, ils ne se battront pas pour la liberté des autres, et que ça ferait une société de merde avec des fachos.
En tout cas, voilà, il y a cette idée-là, pour moi, dont on parlait tout à l'heure, de cette, s'il y a une zone de non-droit dans laquelle on grandit, comment on peut apprendre à connaître la zone de droit, quoi. Et c'est, pour moi, c'est vraiment cette question, encore une fois, de reproduction des dominations qui est au cœur des choses. Et pour moi, le rapport, en tout cas, adulte-enfant, il m'intéresse parce que, en fait, du coup, on est obligé de se regarder en face. On est obligé de tous prendre nos responsabilités. On ne peut pas dire, en fait, je ne suis pas un adulte, ou je ne deviendrai pas adulte, ou je n'ai jamais été enfant. Donc, ça, on est obligé de se confronter à notre part.
Vous parlez de reproduction des dominations. J'ai une question pour tous les deux, David et Juliette. Dans vos livres respectifs, les adultes violents sont des enfants qui ne se sont pas soignés. Juliette.
Pour moi, oui. Oui, les adultes violents sont des adultes qui ne se sont pas soignés et dont la société, je dirais, a aussi limité leur capacité à se soigner, enfin dans le sens qu'on disait, c'est-à-dire un manque d'information, un manque de repères, comme tu disais David, voilà ce qui est normal du coup, enfin ce qui est familier est normal. Et en plus c'est rassurant parce que c'était familier, même quand c'est terrible.
Et pour vous David, le personnage de la mère est aussi dans ce cas-là.
Oui, mais alors je sais pas si c'est, je pense que du coup c'est quelque chose qui est pas, qui a jamais été identifié. Par l'entourage de la mère elle-même. Alors, ça peut être ses parents.
Bah, puis, le mari s'en rend compte quand même.
Alors, son mari, puis parce qu'il subit cette violence-là, mais c'est quelque chose aussi de progressif. J'imagine que le mari ne l'a pas subi dès le début, sinon il n'y aurait pas eu 3 enfants. Oui. Ou ça s'est peut-être fait malgré ça, puisqu'on sait très bien que ça peut arriver. Et alors, ça peut être aussi du déni de la part de l'entourage. Moi, j'ai le sentiment aussi que c'est quelque chose qui est presque admis, quoi, d'une manière générale, que. Bon, voilà, il y a des gens qui apparaissent, alors on va dire caractériels, pour résumer de manière très très douce ce que certaines personnes peuvent être ou la manière qu'elles peuvent avoir d'agir. Donc il y a moi je pense qu'il y a une sorte d'acceptation, voilà, de générale. Alors jusqu'à un certain point, mais quand même, à mon avis, il y a une.
C'est aussi pour pas détruire la famille.
Oui, puis mais je sais pas, moi, à mon avis, il y a une complicité quand même générale, quoi. Mmh. Mais on est peut-être nous-mêmes complices de d'autres violences qu'on voit parfois, dont on est témoin et qui ne nous indignent pas plus que ça, quoi. Enfin, je veux dire.
On s'habitue à la violence.
Bon, on vit dans un monde violent, hein. Enfin, je veux dire, et on s'en accoutume très bien.
Juliette Drouard.
Oui, je pense que, enfin, en tout cas, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on réagit pas à la violence, mais en tout cas, jamais de bonnes raisons de ne pas y réagir. Mais à part si, évidemment, réagir, ça nous menace nous-mêmes de mort. Bon, voilà. Encore une fois, pour moi, il y a cette différence-là entre ne pas réagir parce que on est dans le déni et donc on préfère y rester. Évidemment, on peut aussi ne pas avoir conscience d'être dans le déni, mais bon, il n'empêche, chacun aurait la responsabilité. On ne peut pas lâcher là-dessus, théoriquement, pour continuer à bénéficier d'une éthique. On peut ne pas vouloir regarder parce que c'est plus simple. On peut ne pas ressentir que c'est violent parce qu'on y est habitué. On peut ne pas ressentir que c'est violent parce qu'on est complètement dissocié. Donc en fait, on ressent plus rien du tout. On peut ne pas ressentir que c'est violent parce qu'en fait, on est coupé de notre empathie. Que ce soit, encore une fois, par des mécanismes dissociatifs ou parce que soi-même, on est enragé ou terrifié. Je veux dire, il y a aussi une certaine indisponibilité quand on est dans des états pas possibles.
Vous venez de parler de dissociation et comme tout à l'heure, la libraire évoquait la qualité de votre langue, de votre style, j'aimerais qu'on vous entende. Je vous propose de lire un extrait de votre roman. Les questions justement de cette fameuse dissociation, c'est à vous.
Je ne peux plus bouger. J'entends ses pas dans l'escalier, mais je ne peux plus bouger. Tout d'un coup, je sursaute. J'ai l'impression jusqu'au plafond. Quelque chose a effleuré ma cuisse. Je retombe dessus, ah, j'ai le cœur qui bat à 3000 et je regarde à gauche et je vois une main. C'est l'horreur. C'est plus ma main, c'est une main. Comme une énorme araignée alanguie. Je la saisis et je la secoue comme un chiffon. J'ai des sanglots de stress qui me montent dans la gorge. J'ai envie de hurler « Maman !» Mais elle n'est pas là. Je pense que je deviens zinzin.
Vous écrivez à un autre moment du livre que quand on est en danger de mort, le corps dissocie pour ne pas ressentir. Les plombs sautent pour se couper des émotions et sensations insupportables. Est-ce que c'est ce que vous décrivez dans ce passage ?
Tout à fait. En l'occurrence, c'est l'une des expressions de cette dissociation, c'est-à-dire la dépersonnalisation. C'est que tout d'un coup, on est tellement sorti de soi qu'on se voit tellement de haut que, par exemple, ça peut prendre cette forme. En l'occurrence, il y a une main, tout d'un coup, elle ne nous appartient plus. Et c'est ce que, donc, la dissociation, c'est aussi ce qui a très bien permis de mieux comprendre et de populariser cette notion. Pardon, Muriel Salmonet, excusez-moi, c'était pas très clair, a beaucoup fait pour comprendre cette notion et en informer un plus grand nombre. Et effectivement, c'est quand le corps, de manière très archaïque, en fait, arrive à détecter les menaces. Donc ça, c'est cool. Et donc, on a l'amygdale qui se met à sonner comme une espèce de gros réveil pour dire « attention, c'est menaçant ». Et donc, à ce moment-là, il y a une production de cortisol, d'endorphine, qui fait que, normalement, le corps a de l'oxygène, des glucoses, pour pouvoir se battre ou s'enfuir. ce qui est la réaction appropriée. Sauf que quand on est confronté à une violence qui socialement est taboue, ou de laquelle on n'a pas parlé, ou qu'on n'a pas les moyens de s'en défendre, donc typiquement par exemple en tant qu'enfant, une agression sexuelle, du coup on comprend rien. On se retrouve sidéré. Il y a cette alarme qui sonne, qui fait qu'il y a une énorme production en fait, d'énergie qui n'est pas dépensée et qui devient toxique pour le corps. La cortisol, c'est un neurotoxique, et donc il y a un risque aussi également cardiovasculaire. Donc le cerveau va à un moment donné couper, isoler l'amygdale, qui continue par ailleurs de sonner, c'est comme si on se mettait des bouchons d'oreilles quand on avait notre réveil qui sonne, mais du coup ça coupe aussi le corps de ses sens, de ses émotions, et donc du coup c'est comme si poum, tout d'un coup on était projeté un peu dans l'espace, comme un cosmonaute qui flotte quoi.
C'est le cerveau qui essaie de protéger, qui protège,
c'est une question de survie, sinon on en meurt. Donc c'est vraiment une question de survie, mais effectivement cette dissociation qui sauve pose énormément de problèmes
psychologiques
et somatiques.
Juliette Drouard, David Ducreux, vous restez avec nous. On accueille dans quelques instants l'autrice québécoise Catherine Perrault pour un récit bouleversant et autobiographique. L'élu qui explore la relation entre une mère et son fils atteint d'autisme sévère. Que faire quand les comportements d'un enfant s'aggravent et qu'on ne peut même plus envisager de le garder avec soi? Catherine Perrault sera avec nous dans un instant pour nous raconter. C'était Yves Nice avec Atari.
Etc. Lilia Hassel.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. On part tout de suite au Québec pour retrouver Catherine Perrault. Catherine Perrault, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous vous trouvez à 600 km au nord-ouest de Montréal, c'est ça?
Exactement.
Il fait quelle température?
Il neige et il fait environ moins 20 degrés Celsius.
Très bien, bon bah on est mieux dans le studio. Catherine Perrault, votre livre est bouleversant. Vous racontez l'amour incommensurable d'une mère, Isabelle, pour son fils, Élie, mais aussi l'épuisement physique, mental, émotionnel qu'elle endure. Pourquoi avoir voulu écrire cette histoire?
Bien, L'Élu, c'est un roman d'autofiction, donc c'est grandement basé sur... ma vie personnelle. En fait, la relation mère-fils, c'est très similaire à ce qu'on peut lire dans le livre. Est venu un moment où j'ai dû moi-même faire face là, à la situation décrite au début du roman où la mère se voit contrainte d'acheminer son enfant dans un établissement spécialisé. Donc, écrire cette histoire-là, pour moi, faisait beaucoup de sens parce que je crois que c'est une situation un peu atypique et je trouve important de mettre en mots de nommer la marginalité, en fait, des familles neuroatypiques, si on veut.
C'est atypique et c'est très dur parce qu'on assiste à un conflit entre la culpabilité d'une mère et sa propre sécurité qui est menacée parce qu'à un moment, les comportements d'Élie, qui est donc atteint d'autisme sévère, s'aggravent.
En fait, c'est ça, c'est que c'est une situation quand même très violente qu'elle vit au quotidien, malgré l'amour, malgré les beaux moments, la tendresse. C'est aussi beaucoup d'agression, beaucoup d'automutilation. Puis de voir quelqu'un qu'on aime s'automutiler, c'est toujours très souffrant. Donc, vient un moment où elle n'a pas le choix, elle doit appeler l'ambulance son fils est hospitalisé, là, où on lui annonce au bout de plusieurs jours que ça sera un retour à la maison ne sera pas possible.
J'aimerais lire un passage qui m'a beaucoup touchée, si vous me le permettez.
Absolument.
C'est vraiment un passage qui m'a marquée. « Je prends ta main, je voudrais ne plus jamais la lâcher. Une fois seule dans ta chambre, je m'assois à tes pieds et pendant de longues minutes, pleure en silence. Je pleure pour toutes ces fois depuis la dernière année où j'ai craint pour ta vie et où j'ai dû prendre des décisions auxquelles aucun parent ne devrait être confronté. » Puis je profite de ton sommeil pour prendre soin de ton corps et faire toutes ces choses qui d'habitude finissent dans la violence. Couper tes ongles et tes cheveux, laver ton visage, t'habiller d'un pyjama propre. Ensuite, je m'étends au sol sur le matelas de plastique qui m'est destiné et ferme les yeux. Je suis tellement, tellement fatiguée. Cette fatigue, Catherine, elle est bouleversante. Vous, en tant que mère, vous ne vous êtes pas sentie assez épaulée?
En fait, j'ai la chance d'avoir un réseau amical et familial très fort. Donc, de cette manière-là, oui, je me suis sentie très épaulée. Mais n'en demeure pas moins que lorsque l'on vit cette situation-là, on se sent très seul. Parce que on ne peut se comparer à presque aucun parent autour de nous. On ne peut pas vivre ce que les autres parents vivent. On prend soin d'un autre corps que le nôtre pendant des années. Mon fils a quitté la maison, il avait 13 ans. On est encore très proches, mais il vient à la maison régulièrement. Aujourd'hui, il a 19 ans, mais tu sais, je le lave, je le fais manger, je l'habille. Donc, c'est certain que cet épuisement-là est grand. Moi, ce que j'aurais eu besoin à l'époque, c'est davantage de répit. Mais aucune place n'existait pour prendre soin d'un enfant comme le mien, même ne serait-ce qu'une fin de semaine, parce qu'on me disait que ses besoins étaient trop grands. Donc, c'est un peu un discours où les parents qui ont le plus grand besoin d'aide se ramassent seuls dans cette situation-là.
Je peux vous demander comment va votre fils aujourd'hui?
C'est des montagnes russes. Mon beau Elliot, il s'appelle Elliot, va relativement bien au sens où maintenant ça fait 6 ans là, qu'il a quitté la maison, donc il s'est fait une routine là-bas, il a ses repères, mais tu sais, le contexte actuel au Québec en santé est pas évident. Il y a beaucoup de roulements de personnel, de pénurie de personnel, donc il doit constamment s'adapter à des nouvelles personnes, à des nouvelles procédures, puis ça c'est relativement difficile là. Dans notre contexte.
Et que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent en refermant votre livre, Catherine?
Qu'ils retiennent que dans toute cette aventure-là, qui, oui, peut paraître souffrante, il y a aussi beaucoup de lumière, parce que Isabelle, c'est une mère qui se reconstruit au travers de ça, donc qui apprend à faire des choses pour elle-même, choses qu'elle n'a jamais fait avant. Il y a beaucoup d'espoir, puis on parlait de résilience tantôt, mais pour moi, ça prend tout son sens, la résilience dans ce genre de récit-là, où une mère, elle va rester blessée toute sa vie parce qu'elle a vécu, mais elle n'en demeure pas moins qu'elle doit survivre. Puis pour survivre, ben, c'est faire des choses pour elle, puis c'est réapprendre à vivre finalement sans la présence de son enfant.
Je vous pose la question à vous aussi, David Ducreux et Juliette Drouard. Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent en refermant votre livre, David Ducreux?
C'est juste une histoire, en fait.
Il y a quand même un sentiment particulier, justement, sur cet instinct de survie dont on parlait.
Pour moi, ce qui ressort, c'est la complexité de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de rien n'est écrit, et on se débrouille avec, en fait. Ouais.
Et vous, Juliette Drouard?
J'ai pas particulièrement envie que quelqu'un retienne, mais en tout cas, plutôt je suis heureux si, comme quand moi je suis lecteur, si les personnes peuvent faire une expérience émotionnelle riche et qui va transformer, même à son tout petit niveau, quelque chose en fait.
C'est la mission de la littérature, c'est très bien. Merci à tous les trois. Catherine Perrault, je rappelle le titre de votre livre, L'élu, publié chez Philippe Ray. Vous êtes en ce moment au Canada, mais vous serez au Salon du Livre de Paris du 11 au 13 avril prochain. David Ducreux, votre roman s'intitule La loi du moins fort.
L'écriture y est limpide et percutante, et c'est chez Gallimard. Quant à vous, Julia Drouard, votre roman Cui-Cui paru au Seuil est un joli ovni qui réussit l'exploit d'être à la fois politique et sensible. Merci aussi à nos libraires de la semaine, puisque cette émission France Inter est coproduite par les médias francophones publics, Aurélie Verjus en Belgique et Catherine Collère en Suisse. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Raphaël Rousseau à la technique, Estelle Gap, Virginie Rosic et Ethel Alzial. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.